Bien, je me suis proposé et je vous ai proposé d'évoquer Vipassana aujourd'hui. Vous allez me dire, c'est bateau. Dans le Theravada, si on ne parle pas de Vipassana, de quoi parle-t-on? Je suppose que vous êtes assez nombreux ici à venir justement à Vivekarama parce que c'est un courant du Theravada et qu'on y pratique Vipassana. Qui vient ici pour pratiquer Vipassana? N'ayez pas honte. Allez, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bien. Mais moi, il m'a semblé intéressant de revenir un petit peu sur ce mot, cette notion, savoir exactement ce qu'elle voulait dire et en quoi consistaient les enseignements qu'on transmet sur Vipassana. On dit beaucoup de choses sur Vipassana. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Enfin, disons un certain nombre de choses qu'on ne dit pas. Donc, plutôt que de vous dire ce que vous avez déjà entendu ailleurs, j'aimerais évoquer des choses que vous n'avez certainement jamais entendues ailleurs. Et ça sera l'occasion pour vous, sans doute, peut-être, de travailler aussi sur quelque chose qui est capital dans la pratique bouddhique, c'est le détachement, notamment par rapport aux opinions. Tout ce que vous entendez dire sur Vipassana depuis presque un siècle maintenant, dans les traditions birmanes ou thaï, pour l'essentiel, ce qui est transmis généralement en Occident, c'est une forme d'enseignement bouddhique. J'ai envie de dire parmi d'autres. Vous savez très bien que ce que transmet cet enseignement sur Vipassana dans le Theravada, ça n'est pas ce qu'on transmet dans le zen japonais. C'est pas ce qu'on transmet dans le bouddhisme tibétain. C'est pas ce qu'on transmet dans les écoles de la Terre pure, dans les écoles du Sutra du Lotus, etc., qui sont toutes des écoles bouddhistes. Je pense pas qu'il y en ait parmi vous quelqu'un qui oserait dire que ces écoles ne sont pas bouddhistes. Elles le sont toutes. Et elles se sont toutes reconnues les unes les autres comme étant bouddhistes. Et pourtant, elles transmettent des enseignements qui n'ont rien à voir les unes par rapport aux autres. Vous ne trouverez pas d'enseignement sur Vipassana dans le Zen. Vous ne trouverez pas d'enseignement sur Vipassana tel qu'il est transmis dans le Theravada, dans le bouddhisme tibétain. Même si on peut évoquer Vipassana dans le bouddhisme tibétain, Vipassana plus exactement, ou Laktong, pour employer le terme tibétain, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on transmet dans le Theravada. Et pourtant, tous ces enseignements-là sont bien considérés comme bouddhistes. Toutes ces écoles bouddhistes disent que l'enseignement qu'elles transmettent vient de l'enseignement du Bouddha. Toutes ces écoles bouddhistes nous disent que ces enseignements, les pratiques qu'elles transmettent, permettent d'obtenir l'éveil et la libération. Et pourtant, toutes disent, c'est nous qui avons la vérité. Et je pense que vous êtes venu ici plus qu'ailleurs, parce que pour vous, il y avait une résonance particulière, parce que vous vous disiez peut-être, bah oui, c'est peut-être là quand même que ça semble le plus vrai, le plus réel, le plus proche des enseignements du Bouddha. Alors ça, généralement, c'est effectivement l'argument massue dès qu'on parle du Theravada, on considère que c'est l'enseignement des anciens, donc l'enseignement qui est le plus proche des enseignements du Bouddha historique, voire que c'est la seule école qui transmet réellement les seuls réels enseignements du Bouddha. Opinion. Ceci est une opinion. Et je vais vous le prouver. Et ça n'est pas très grave. Ça n'est pas très grave. Le fait qu'on ait des opinions, qu'il existe des opinions, c'est pas le plus grave. Le plus grave, et ça le Bouddha le répète souvent dans les enseignements qui sont consignés dans le canon Pali, c'est d'être attaché à ses opinions. Attaché à un enseignement. Il déclare dans plusieurs textes, ça revient quand même très régulièrement, si vous êtes attaché à un enseignement en considérant que cela seul est vrai, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est ce qu'il dit par rapport aux enseignements des autres maîtres spirituels de son époque. Qu'il s'agisse des brahmanes, des jaïnes, des ajivikas, etc. Ce qu'ils leur reprochent, ce n'est pas les opinions qu'ils ont, ce n'est pas l'enseignement qu'ils donnent, c'est surtout le fait qu'ils disent « cela seul est vrai ». Parce que quand on dit « cela seul est vrai », ça veut dire que on est attaché à une opinion. Or, pour le Bouddha, le plus important, c'est justement de pratiquer le détachement. Et notamment le détachement vis-à-vis de toute opinion. Y compris de celle de son propre enseignement. C'est pour ça qu'il le compare à un radeau. Mon enseignement est comme un radeau qui a un seul objectif, celui de vous être utile pour traverser, pour atteindre l'autre rive, pour atteindre l'éveil, mais que vous ne devez pas saisir. Il y a une formule comme ça dans un texte qui dit « Et si vous avez compris à quel point vous ne deviez pas vous saisir de cet enseignement-là qui est tellement bon, alors vous devriez encore mieux comprendre pourquoi vous ne devez pas vous saisir de toute autre opinion qui est si mauvaise. » Donc prendre conscience de ces opinions, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement important, c'est extrêmement utile. Mon souhait aujourd'hui, c'est pas de critiquer l'opinion qu'on se fait aujourd'hui de Vipassana, c'est d'évoquer Vipassana tel qu'il apparaît dans les textes du canon, pour vous donner un autre point de vue sur Vipassana, une autre opinion, pour que vous sachiez qu'il n'y a pas qu'une opinion sur Vipassana. Il n'y a pas qu'une seule chose. Et puis on fera la même chose la prochaine fois au mois de juin sur Sati. Aujourd'hui, l'opinion générale, l'opinion la plus fréquente, la plus répandue, c'est de dire Vipassana, c'est la seule pratique que le Bouddha a enseignée comme étant le moyen sûr de parvenir à l'éveil. Il n'y a pas d'autre pratique que celle de Vipassana. Et Vipassana se base, la pratique de Vipassana se base sur un texte qu'on appelle le Satipatthana Sutta. Les bases de Sati, les bases de l'attention. Opinion. Ceci est une opinion. Une opinion récente. Une opinion qui date d'il y a un siècle. Un peu plus. Mais surtout depuis un siècle. C'est surtout ce discours-là qui s'est répandu depuis un siècle. Mais ce n'est que l'un des discours. Il n'y a pas que celui-là. Donc, ne vous attachez pas à cette opinion, essayez de comprendre derrière les opinions quelle est la réalité de l'enseignement du Bouddha qui vise à la libération, y compris de toutes les opinions. J'évoquais il y a quelques semaines devant une assemblée mêlée, parce que c'était au Centre culturel bouddhique de Rennes, qui réunit toutes les écoles bouddhiques qui sont présentes dans la région, donc le public est lui aussi très mélangé, un sujet qui était comment le Bouddha parvint-il à l'éveil. Et j'avais commencé justement en expliquant, ben voilà, aujourd'hui vous êtes dans le Zen, vous êtes dans le bouddhisme tibétain, vous êtes dans la terre pure, vous êtes dans l'école du Sutra du Lotus, vous êtes dans le Theravada. Que je vous ai dit tout de suite, chacun a sa méthode, chacun est persuadé que c'est la meilleure, etc. Et ce qui est quand même surprenant, c'est qu'il n'y en a aucune de ces méthodes qui n'est évoquée dans le canon lorsqu'on évoque comment le Bouddha parvint à l'éveil. Si vous lisez tous les textes du canon ancien, je ne dis pas même pas le canon Pali, je parle de tous les canons anciens, absolument tous les canons anciens, en tout cas ceux qui nous ont été transmis jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont été conservés jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas que le canon Pali, il y a le canon des Sarvastivadines, une partie du canon des Sarvastivadines, des Mahasanghika, des Dharmaguttaka, des Mahisasaka, il y a 5 ou 6 écoles du bouddhisme ancien sur les 18 qui sont censées avoir existé, donc c'est pas énorme, mais ça laisse quand même une certaine diversité, ça présente une certaine diversité, et dans aucun de ces textes, quand on raconte comment le Bouddha parvint à l'éveil, il n'est question ni du tantrisme, ni de zazen, ni même de vipassana. Donc c'est assez surprenant. Dans tous ces textes-là, on nous dit que le Bouddha a connu l'éveil après avoir pratiqué les austérités, les avoir abandonnées, puis après avoir pratiqué ce qu'on appelle les jhanas. Et à l'issue de cette pratique des jhanas, durant la dernière veille de la nuit, le Bouddha connaît l'éveil qui se caractérise par l'acquisition, l'apparition de trois connaissances. Pas question de vipassana. Et je vais aller plus loin que ça. Vipassana est un terme qu'on ne trouve quasiment pas dans le canon. Même le canon Pali, qui est le canon de référence de Theravada. Alors j'ai eu l'occasion de faire un cours très érudit sur la question à l'IEB. Ici, on n'est pas à l'IEB, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails de références textuelles, etc. Mais enfin, s'il y en a qui s'intéressent, je pourrais toujours les transmettre ultérieurement. Mais le terme de vipassana apparaît très peu dans le canon. Extrêmement peu. Il y a à peu près, selon la façon dont on compte, on va faire en gros 10 000 textes dans le canon Pali. De taille variable et de date variable. Est-ce que vous avez une idée du nombre de fois où le mot vipassana apparaît dans ces 10 000 textes? Dans combien de textes le mot vipassana apparaît? Sur 10 000, à votre avis? Osez. Osez lancer un chiffre.
3.
Peut-être une dizaine, quinzaine maximum. Une quinzaine sur 10 000. Une quinzaine sur 10 000. En fait, il y a une trentaine de textes où on trouve ou le verbe vipassati ou le substantif vipassana. Puisque l'un est en rapport avec l'autre. Mais c'est tout. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir dans quel volume du canon et dans quel texte du canon ce terme apparaît. Donc, je n'ai pas la connaissance du canon que vous avez les uns et les autres. Normalement, vous devriez tous en avoir lu une grande partie. Ça fait partie de la pratique. Ça fait partie de la pratique, hein, je vous rappelle, de lire les enseignements, de les écouter et d'en discuter. On aura l'occasion de revoir ça dans un texte tout à l'heure que je vous citerai, je pense. Donc il y a déjà un gros tiers de ces citations dans lequel c'est le verbe et non pas le substantif. Et dans les citations où il y a bien le mot vipassana, c'est rarement vipassana qui est cité. C'est beaucoup plus samatha vipassana. Comme un couple, et un couple absolument indissociable. Le canon contient aujourd'hui 5 volumes, 5 ensembles, 5 regroupements. Regroupement en pali, ça se dit Nikaya. Donc il y a 5 regroupements. Le regroupement des grands discours, grande taille, Diga, Nikaya. Le regroupement des moyens discours, de moyenne taille, Majjhima, Nikaya. Le regroupement des petits discours, soit par thème, Samyutta, Nikaya, soit, selon un classement numérique, Anguttara Nikaya. Et puis il y a le cinquième volume, le cinquième regroupement, qui est Kuddaka Nikaya, ça veut dire moindre, Kuddaka, donc de moindre taille par rapport aux 4 précédents, dans lequel il y a tout ce qui ne rentrait pas dans les 4 précédents. En gros. Voilà. Aucune citation de Vipassati ou de Vipassana dans le Diga Nikaya. 3 ou 4 citations dans le Majjhima Nikaya. Il y en a un peu plus dans le Samyutta Nikaya, nettement plus dans l'Anguttara Nikaya, et beaucoup plus dans le Kuddaka Nikaya, le dernier, mais il se trouve que c'est dans les 5 derniers textes du Kuddaka Nikaya, et ces 5 derniers textes, c'est des textes qu'on appelle d'Abhidhamma. Donc l'Abhidhamma, ce n'est pas l'enseignement du Bouddha. L'Abhidhamma, c'est la systématisation du contenu de l'enseignement du Bouddha par ses successeurs, 2, 3, 4 générations après sa disparition. C'est l'aspect un peu scolastique de la transmission des enseignements du Bouddha. Ça correspondrait plutôt à la littérature, si on regarde les évangiles par exemple dans la Bible, Et ben ces textes d'Abhidhamma, c'est un peu les pères de l'Église. Donc c'est pas la parole de Jésus, c'est pas la parole de Bouddha, c'est la parole de ses successeurs, et c'est une façon plus systématique, plus dogmatique de présenter les choses. Et là, oui, on trouve beaucoup Vipassana. Mais dans les enseignements du Bouddha, non. Rarement. Très rarement. Alors évidemment, on pourrait s'interroger pour savoir pourquoi aujourd'hui Vipassana a pris une telle importance, pourquoi on considère que c'est la méthode par excellence. Bon, je ne vais pas rentrer dans un cours d'histoire sur le Theravada et tout ça, je voudrais plutôt essayer de vous voir, de vous montrer quand Vipassana est cité, qu'est-ce qu'il représente. Hein? Ça va peut-être éclairer ce que vous devriez entendre aujourd'hui dans la méthode qui vous est transmise sous le nom de Vipassana. Parce que s'il y a une chose qui est sûre dans le bouddhisme, si tous les bouddhistes actuels se considèrent tous comme bouddhistes, et s'ils se considèrent tous comme le détenteur des enseignements du Bouddha, c'est au moins dans l'esprit, sinon dans la lettre, et que s'ils sont réellement bouddhistes, c'est que forcément, entre ce qu'ils enseignent aujourd'hui et ce que le Bouddha a enseigné à ses contemporains, il y a forcément des points communs. Il y a forcément quelque chose qui existe toujours, qui est toujours là, et qui a toujours été reconnu comme finalement le cœur de l'enseignement du Bouddha. Pour ce qui est de la forme, le Bouddha lui-même disait, le Dhamma, ce que j'enseigne, hein, mes préconisations, on appelle ça le sasana, Bouddha sasana, ce qu'on appelle strictement l'enseignement du Bouddha, les préconisations du Bouddha, ça dépend du langage. Le langage, ça dépend des concepts, et les concepts, c'est des formations mentales qui sont soumises à toutes les lois de coproduction conditionnée, c'est-à-dire que ça apparaît, ça disparaît, ça apparaît, ça disparaît, et donc, d'instant en instant, c'est toujours différent. Et le Dhamma, l'enseignement du Bouddha, apparaît et un jour disparaît. Et puis il y a un autre enseignement du Bouddha qui apparaît et puis qui disparaît. C'est le cas pour les différents Bouddhas successifs au fil des ères cosmiques, et c'est le cas aussi dans cette ère cosmique pour l'enseignement de Shakyamuni, de Gautama. Il y a ce que lui a dit, et il a dit des choses différentes selon les personnes, et d'un jour à l'autre, une fois à l'autre, d'une année à l'autre, il n'a pas dit les choses de la même manière, et ses successeurs vont le dire encore d'une façon différente, etc. Donc le conditionnement de l'enseignement, ça fait partie de l'enseignement du Bouddha. Donc d'une certaine manière, il n'y a pas à être choqué que l'enseignement ait changé. Parce que c'est de la nature des choses de l'enseignement de changer. C'est pour ça qu'il est d'autant plus grave d'être attaché à une forme de l'enseignement. Parce que cette forme d'enseignement, de toute façon, elle va disparaître. Et il y en aura une autre qui apparaîtra. Ça, c'est dans la cohérence de l'enseignement du Bouddha. Mais pour qu'il y ait enseignement du Bouddha efficace, puisque c'est ça qui est importé au Bouddha, c'est d'avoir un enseignement qui soit efficace. Et notamment efficace dans le fait qu'on ne s'attachera pas à lui. Parce qu'on l'utilisera comme un radeau pour traverser, mais pas pour s'en saisir. Hein ? Ou comme un serpent. Quand on attrape correctement un serpent, on peut utiliser son venin, son poison, comme un médicament. Si on le saisit mal, si on s'en saisit tout court, et surtout mal, eh bien le serpent se retourne contre vous, et le poison, il vous tue. Donc c'est quand même fort de la part du Bouddha de comparer son enseignement à un radeau qu'on abandonne, et à un serpent qui peut vous tuer. Et donc il n'arrête pas de dire à ses disciples « Soyez pas bêtes, comprenez bien ce que j'enseigne, ne vous attachez pas à la forme de ce que j'enseigne. Ce que j'enseigne, c'est uniquement là pour vous permettre de parvenir à expérimenter la réalité. Mais ne vous attachez pas aux mots, aux concepts, aux idées. Ces mots, ces concepts, ces idées, ils ont un but, là, précisément, aujourd'hui, c'est de vous permettre de vous détacher de toute opinion, de vous détacher du plaisir sensuel, de vous détacher de tout attachement. Donc réfléchir sur les évolutions, constater les évolutions de l'enseignement du Bouddha, sa diversification, son conditionnement, ça n'est pas anti-bouddhique. Je dirais même que c'est le cœur de l'enseignement du Bouddha. Puisqu'on ce qu'on va demander, au final, dans la pratique bouddhique, c'est de voir réellement l'apparition et la disparition de tous les phénomènes. Et l'enseignement, c'est un phénomène aussi. Un phénomène conditionné. Alors, vipassana, vipassati. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Qu'est-ce que ça veut dire vipassana? Qu'est-ce que vous connaissez, vous, comme définition ou comme traduction du mot vipassana?
Vision profonde.
Vision profonde.
Vision intérieure,
c'est pas ce qu'on trouve le plus fréquemment.
Pénétrante.
D'autres propositions?
Voir les choses telles qu'elles sont.
Voir les choses telles qu'elles sont, c'est autre chose. Non? Bon, après tout, a priori, c'est effectivement vision profonde et vision pénétrante qui sont effectivement les deux traductions les plus fréquentes pour vipassana. Alors, vipassana, c'est un mot très simple, étymologiquement. Il y a un préfixe, vi, et puis un substantif, passana, qui vient d'un verbe, passati. P-A-2-S-A-N-A, long, pour le substantif, A-T-I, pour le verbe. Alors, passana, ça veut dire voir. Mais vous savez bien qu'en français, on a voir, regarder, observer, etc. Il y a une multitude de façons et de verbes pour exprimer la vision. On fait la distinction entre voir et regarder. Et puis, regarder, ça peut être aussi comprendre, et puis ça peut être scruter, ça peut être analyser, ça peut être plein de choses. Donc, passana, ça, évidemment, ça a un sens particulier. C'est pas voir de façon générale. Là, c'est videre. C'est la même racine. Videre, ça donnait vidéo en latin et voir en français. Donc là, c'est le verbe le plus général. Donc, passana, c'est pas une vision au sens général du terme. C'est déjà une vision qui est particularisée, caractérisée. Alors, pour essayer de comprendre un peu plus, on peut consulter un dictionnaire de sanskrit ou de pali qui va nous donner les différentes significations. On peut regarder aussi qu'est-ce que ça a donné dans nos langues européennes, puisque le sanskrit, le pali, c'est une langue indo-européenne, donc il y a des racines communes avec nos langues à nous, des étymons, comme on dit dans le jargon des philologues, des étymons indo-européens qui vont donner des mots en sanskrit et qui vont donner des mots en latin, et donc du latin en français, ou dans d'autres langues européennes. Alors, il se trouve que passat a donné en allemand, je ne sais pas s'il y a des germanophones parmi vous, c'est le verbe spähen. Il n'y a pas de germanophone? Non. Ça veut dire guetter. Et en anglais, ça a donné spy. Il y a des francophones, des anglophones, donc spy, c'est
l'espion.
Et en français, ça a donné le mot espion, par l'intermédiaire du latin. Donc, espion, guetteur. Vous voyez que ce n'est pas simplement une vision ordinaire. L'idée de passana, de passati, c'est d'avoir une vision qui va être extrêmement précise. Et moi j'ai envie de traduire, et c'est une des traductions qui est donnée dans les lexiques sanskrit et pali, c'est l'idée de scruter. De scruter. Et scruter, ça veut dire que vous regardez dans les détails. C'est pas juste une vision panoramique. C'est pas du tout une vision panoramique. Au contraire, quand vous êtes un guetteur, vous faites attention aux moindres détails. Vous êtes là pour surveiller. Quand vous êtes un espion, c'est pareil. Vous êtes extrêmement attentif à tout ce qui peut se produire. Et c'est donc quelque chose d'extrêmement détaillé. Donc passana, passati a déjà cette signification d'une vision extrêmement pointue. Et le préfixe vi, ça veut dire quoi?
Distinguer,
discerner, diviser. C'est vi, en latin, ça donne 10. Donc ça donne tous les mots qui commencent par 10 en français. Enfin, 10 ou 10. Donc diviser, distribuer, distinguer, discerner, etc. Donc vous voyez, cette idée, c'est pareil. C'est 10, c'est 2. C'est donc couper, c'est séparer, c'est diviser. Donc on a une vision qui est une vision scrutatrice, extrêmement précise sur les détails, et qui divise. C'est ça, vipassana. C'est ça, vipassati. Donc c'est exactement le contraire d'une vision contemplative générale et panoramique. Au contraire, c'est une vision qui va aller chercher, qui va aller fouiller les détails, j'ai envie de dire, qui va couper les cheveux en quatre. Ça, c'est la signification étymologique. Mais ça n'est pas que la signification étymologique. C'est aussi ce qu'on trouve exprimé dans les textes. C'est aussi ce qu'on trouve exprimé dans les textes. Et je dirais, c'est tout à fait normal quand on sait que le Bouddha se désignait lui-même comme un Vibhajjavadina. Vibhajja. Quelqu'un sait ce que c'est ? Vibhajja ? Non ? La distinction. Vibhajjavadina. Je suis celui qui fait des distinctions. C'est ça, c'est comme ça que le Bouddha se présente lui-même. Justement par opposition aux autres qui disent « cela seul est la vérité ». Ah oui, mais moi je rentre dans les détails, je nuance, je fais des distinctions. Dans certains cas ça c'est vrai, mais dans d'autres cas ça c'est pas vrai. Souvenez-vous de cette façon très originale de répondre à un ascète qui lui demandait si le soi existait, où il répond ni oui, ni non, ni oui et non, ni oui ni non. C'est un fondement de la pensée bouddhique. Vous le retrouvez chez Nagarjuna comme base du Mahayana, etc. On ne peut pas dire des choses qu'elles sont, ni non plus qu'elles ne sont pas. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire qu'elles sont, ni qu'elles ne sont pas ?
À cause de la coproduction
conditionnée, cela n'est pas. Et on ne peut pas dire non plus que cela n'est pas, parce que cela apparaît et disparaît. Donc on ne peut pas dire que c'est, parce que ça ne fait que apparaître. Il y a une différence entre l'être et une apparition. Et on ne peut pas dire que ça n'existe pas, que ce n'est pas, puisque effectivement ça apparaît, mais on ne peut pas dire que ça est, parce que ça disparaît aussi. Voilà, ça c'est un des principes fondamentaux de l'enseignement du Bouddha. Ceci apparaît, ceci disparaît. Tout ce qui est soumis à l'apparition est soumis à la disparition. Vous savez comment les premiers disciples du Bouddha sont parvenus à l'éveil ? Les 59 premiers. C'est-à-dire les 5 ascètes, ensuite le fils de banquier Yassas, plus ses 49 compagnons, et quelques. Au bout d'un moment, ils étaient 60 avec le Bouddha. Donc j'élimine le Bouddha. Les 59 arhants qui sont parvenus à l'éveil dans les premières semaines après le premier enseignement à Sarnath, est-ce que vous savez comment ils sont parvenus à l'éveil ? Quelle pratique ils avaient ?
Ils ont écouté.
Ils ont écouté un enseignement du Bouddha et ils ont manifesté leur compréhension et leur éveil en disant « Tout ce qui est soumis à une condition est soumis à la disparition. » Voilà. Quelle pratique ? Alors les ascètes ont pratiqué l'ascèse. Ils ont pratiqué ce qu'on appelle les jhanas, la forme du sans-forme, le fils du banquier. Il sortait d'une beuverie. Il avait passé la nuit avec ses femmes dans son harem, il avait l'impression d'être au milieu d'un cimetière ou d'un hôpital d'urgence, et puis il est parti désespéré, il a traversé le Gange, ou je ne sais plus quelle autre rivière, c'était pas là le Gange, c'était une autre rivière. Il arrive dans le parc Audin à Sarnath, et puis il rencontre le Bouddha lui fait un discours, et ch'toup, l'éveil. Quelle pratique il avait ? Aucune.
Il pratiquait dans l'éveil antérieur.
En tout cas, dans celle-là, rien. Rien du tout. Ces 40, ces 50 compagnons, rien du tout. Et de toute façon, ce que les autres, les A5, A7 avaient pratiqué, le Bouddha a dit, c'est inutile, ça sert à rien, puisqu'il les a abandonnés. Donc c'est quand même étonnant. Et le Bouddha lui-même, qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, il a effectivement passé la nuit à pratiquer les jhanas. Mais on n'est même pas sûr, les textes ne nous disent pas que ce sont les jhanas qui ont provoqué l'éveil. On nous dit qu'il a connu l'éveil après avoir pratiqué les jhanas. Ça ne veut pas dire que c'est à cause des jhanas. Mais c'est après avoir pratiqué les jhanas. Il n'y a pas un rapport de cause à effet entre les deux. Donc en fait, on ne sait pas comment ils sont parvenus à l'éveil. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en n'utilisant aucune des méthodes qui sont aujourd'hui enseignées. Aucune. Bon, maintenant, si on a trouvé qu'il y avait besoin de ces méthodes-là, c'est qu'il devait y avoir une raison. Et si on considère que toutes ces méthodes-là sont transmises par des gens qui s'appellent des bouddhistes parce qu'ils se considèrent comme transmettant les enseignements du Bouddha, il faut essayer de comprendre. Il faut essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors, vipassana, vipassati. Ça apparaît donc quand même dans quelques textes. Je vous ai dit que c'était peu nombreux, mais ça apparaît quand même. Et effectivement, vipassana et vipassati sont des termes qui sont employés à des moments extrêmement importants pour désigner, en fait, l'état d'esprit de celui qui est parvenu à l'éveil. En fait, la première chose qu'il faut constater quand on regarde le canon, c'est que vipassana, ce n'est pas une pratique. Ce n'est pas une méthode. C'est un résultat. C'est un résultat. Après, ce que dit précise un certain nombre de ces textes, c'est que ce résultat n'est pas obtenu. C'est-à-dire qu'il n'est pas là comme une consécration d'une pratique particulière qui s'appellerait vipassana, mais que, selon ce qui est tout à fait conforme à l'enseignement du Bouddha, quand un certain nombre de conditions sont réunies, vipassana apparaît. Ça aussi, c'est quelque chose d'important à comprendre dans l'enseignement bouddhique. Ce que l'on vous enseigne généralement comme méthode, ce n'est pas une cause qui va produire un effet. Ce qu'on vous enseigne, ce qu'on vous dit de pratiquer, ça crée des conditions pour que quelque chose se produise. Mais ce n'est pas ce que vous faites qui va produire quelque chose. Mais ce que vous faites sera indispensable pour que la chose se produise. C'est la différence entre la relation de cause à effet et la relation de conditionnement. Une condition, c'est ce sans quoi quelque chose ne peut pas se produire. Mais ça ne veut pas dire que c'est la cause de ce qui se produit. Ça, c'est extrêmement important, il ne faut jamais l'oublier. Et tout l'enseignement bouddhique, toute la pratique bouddhique est là pour créer des conditions afin qu'un certain nombre de choses se produisent. Et ces choses qui se produisent, ces phénomènes qui se produisent, sont des phénomènes qu'on appelle la vision, qu'on appelle la connaissance. Mais ce n'est pas quelque chose que vous produisez. Ce n'est pas vous qui produisez. Au contraire, ça se produit quand vous arrêtez de faire un certain nombre de choses. La pratique bouddhique, finalement, c'est pas tant faire quelque chose que d'arrêter de faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est que la caractéristique du samsara ? Nous sommes en train de fabriquer en permanence de l'illusion. Nous sommes en train de nous aveugler. Nous sommes en train de nous attacher. Nous sommes en train de nous reproduire. Nous sommes en train de faire, de créer. Et comment dit-on créer en sanskrit ou en pali? Karma. Enfin, le verbe c'est karoti, le substantif c'est karma. Le problème c'est le karma, c'est-à-dire c'est tout ce que vous faites. Donc c'est logique que la libération, c'est pas en faisant qu'elle va survenir. C'est quand vous arrêterez de faire quelque chose. D'accord? Alors si on regarde par rapport à ce que nous dit le Bouddha sur notre façon de penser habituelle, celle qui nous maintient dans le samsara, il nous dit, vous êtes en train d'agréger des phénomènes qui existent indépendamment les uns des autres pour en faire des individus que vous voyez de façon très conceptuelle. Qu'est-ce que ça veut dire, individu ?
Sans agrégat.
Non divisé. Un individu, c'est non divisé. Donc si c'est notre erreur que de créer des individus, la solution, elle se trouve dans la vision d'individu des choses. Là où nous voyons un individu, un Atman, le Bouddha nous dit, non, vous avez un complexe corps-esprit. Enfin, Namarupa, forme et mental. Et ce forme et mental, ce Namarupa, c'est lui-même un ensemble de cinq ensembles. Cinq ensembles d'aliments. Hein? Cinq tas, en fait. Skanda, c'est un tas. Un tas, comme un tas de gravier. Voilà. Donc vous avez cinq tas, et de ce cinq tas-là, vous faites un quinconce. Vous faites une forme géométrique, et vous appelez ça quinconce. Voilà. Tout ça, c'est de la construction. Construction, création, karma. Mais qu'est-ce qu'il y a réellement ? Ben, il y a cinq tas. Et dans ces tas, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, il y a plein de graviers. Et donc, qu'est-ce que vous propose le Bouddha ? De faire des distinctions. D'arriver à voir les choses, non pas de cette façon globale, qui est une façon erronée de voir les choses, mais de voir que là où on a l'impression qu'il y a des individualités, en fait, il y a une multiplicité extrême. Et donc, effectivement, la solution à cet aspect très illusoire de voir la réalité, c'est de voir la diversité. Or, c'est ça que veut dire Vipassana. Vipassana, c'est voir toute la diversité des choses. C'est scruter tous les éléments constitutifs de la réalité que nous ne voyons pas, mais nous ne les voyons pas parce que nous passons le temps à justement agréger les choses. Hein ? Si on parle des cinq agrégats, d'une certaine manière, on peut considérer que la traduction n'est pas mauvaise si on voit ça. Oui, mais c'est nous qui agrégeons. C'est nous qui agrégeons. Hein ? Et on parle d'agrégats d'attachement. On cumule. Non seulement on agrège des choses qui en elles-mêmes ne le sont pas, mais en plus on les attache et on s'y attache. Donc on a tout faux. Et c'est pour ça qu'on souffre. Donc effectivement, l'opposé de cette façon erronée de voir les choses, c'est de voir les choses de façon très multiple, très atomisée. Hein? Et donc le Bouddha nous dit, non, là où vous voyez un individu, une personne, Puggala, un individu qui est une âme, Atman, non, il y a Namarupa, et puis ce Namarupa, c'est Pachumpadanakanda, cinq ensembles d'attachements. Et puis en dessous, après, les disciples, ils vont continuer en disant dans les Abhidharma, eh bien, ces cinq... Upadanakanda, en fait, c'est 72 dhammas ultimes. Enfin, 72, ça, c'est les Theravadines. Il y en a d'autres qui iront jusqu'à 100, voire plus. Mais peu importe. L'esprit qui sous-tend tout ça, c'est de dire que là où on voit une chose, le Bouddha nous invite à voir des éléments. À décomposer, à atomiser. Il faut faire exploser la chose. C'est Matrix.
C'est-à-dire que c'est une vision analytique, peut-être.
Alors, analytique, le problème, ça tout dépend ce que vous entendez par analytique. Moi, j'aime bien les termes qui commencent en français par 10, donc faire des distinctions, ou avoir du discernement, etc. Discriminer, oui, une vision discriminante, parce que l'analyse, elle risque d'être très intellectuelle. Or là, c'est pas ce qui est proposé, hein, puisqu'il s'agit de le vivre en réalité. Il ne s'agit pas de le penser, il s'agit de l'expérimenter par soi-même. Et quand on parle d'expérimentation, le terme pali sanskrit, c'est toucher. C'est de l'ordre du tactile, du contact direct avec les choses. Alors que justement, tout ce qui est conceptuel, tout ce qui est mental, nous éloigne des choses. C'est bien dit dans les textes fréquemment que l'enseignement du Bouddha nous mène à la réalité, nous conduit à la réalité, nous conduit à l'expérience de la réalité. Donc il s'agit beaucoup d'étudier, de discuter l'enseignement, mais après d'expérimenter la réalité. Donc l'enseignement, c'est un temps, c'est indispensable pour pouvoir expérimenter la réalité. Et donc dans un des textes justement du canon ancien, où le terme de vipassana ou de vipassati, je vais vérifier tout de suite parce que je ne me souviens plus. c'est Vipassana. C'est tiré de l'Anguttara Nikaya. Si on développe quatre choses correctement, correctement c'est Samma, comme dans l'octuple sentier, quand vous avez la vision juste, la motivation juste ou correcte. Donc là c'est le même mot, Samma. Quand on développe correctement quatre choses et qu'on s'y adonne correctement, cela conduit progressivement à la destruction des souillures, autrement dit à l'éveil. Quels sont ces quatre ? Écouter l'enseignement, discuter l'enseignement, expérimenter directement, et vipassana, que j'ai traduit moi par percevoir distinctement. Alors ce qui est très surprenant dans ce texte-là, c'en est un parmi d'autres, du canon, c'est que vipassana apparaît en dernier, après l'expérience directe. Vous avez d'abord écouté l'enseignement, ensuite discuté l'enseignement, ensuite percevoir directement, et ensuite percevoir distinctement. Donc on peut à la rigueur faire deux. Il y a deux choses qui concernent l'enseignement et deux choses qui concernent la perception. Perception directe, enfin expérience directe et perception directe. Vision distincte des choses. Donc Vipassana, en fait, dans tous ces textes anciens, c'est pas du tout une pratique, c'est pas du tout une méthode, c'est ce qui se manifeste en même temps que l'éveil, quasiment. Ou en tout cas, c'est ce qui se manifeste juste avant l'éveil, ou pendant l'éveil, ou avec l'éveil. Il y a un autre texte qui évoque l'octuple sentier, et qui dit que je ne dis pas de bêtises. Non, c'est pas dans celui-là. C'est dans un autre texte. Qui dit que samatha et vipassana, là on a les deux termes, apparaissent couplés ensemble, si vous préférez, à la suite de Viriya et Sati. À la suite de Viriya et de Sati. Alors évidemment, on dit comme ça, si vous n'avez pas les textes par cœur dans la tête, ou dans le cœur, ça ne va pas vous dire grand-chose. Alors, y en a-t-il parmi vous que la séquence Sati, Viriya, Sati et un troisième élément, y en a-t-il parmi vous à qui ça évoque quelque chose ?
Sampajana. Sampajana.
Sampajana.
Sati, Sampajana.
Non, je veux dire la séquence Viriya, Sati et un troisième élément. Viriya ou Vayama.
Les cinq forces.
Les
cinq forces, la conviction.
Alors c'est pas cette liste là, mais Sati en fait partie, mais Viriya Samatha Vipassana n'en font pas partie dans ce cas là. En fait c'est, non, je pensais c'est l'octuple sentier, vous avez pensé juste, motivation juste, c'est le premier ensemble. Après vous avez les trois, parole juste, action juste, moyen d'existence juste, et ensuite vous avez Viriya, Sati et Samadhi. Et donc là, en fait, on met à la fin du chemin Viriya, Sati et Samatha Vipassana. Samatha Vipassana qui sont présentés comme l'équivalent de Samadhi. Comme ceux qui se manifestent au moment du Samadhi. Donc pas du tout comme une méthode, mais comme quelque chose qui apparaît quand un certain nombre de conditions sont réunies. En l'occurrence, la condition essentielle, c'est le recueillement, samadhi. Donc quand on regarde tous ces textes, il y a plein de citations, je ne veux pas vous les donner, je ne veux pas faire un cours non plus, comme j'en fais à l'IEB, c'est pas le sujet ici, hein. Ce que je vais essayer de vous faire comprendre ici, c'est que dans ces textes-là, dans les textes du canon, dans les textes les plus anciens. Vipassana est d'abord, la plupart du temps, toujours présenté en couple avec Samatha, et jamais seul, et est présenté comme un effet, et non pas comme une pratique, non pas comme une cause, hein, mais comme un effet. Et elle correspond, en fait, à cette capacité que l'esprit acquiert de pouvoir ne plus être illusionné par nos propres créations mentales, mais de voir la diversité des choses telles qu'elles sont. Donc ce n'est pas uniquement la vision des choses telles qu'elles sont. Là, ce qui est important, c'est le 10, à discerner les différents éléments dans les choses telles qu'elles sont. Parce que c'est ça qui va créer l'antidote à notre croyance en l'unicité des choses, en l'individualité des choses, en la personnalité des choses et des personnes, des êtres. Alors, Samatha Vipassana. Aujourd'hui, quand on vous parle de Samatha Vipassana, la plupart du temps, on vous dit Samatha, c'est le calme. Effectivement, Sam, c'est le calme. La racine Samma, c'est, ça veut dire calme. Et généralement, c'est sous ce nom-là qu'on présente la pratique des jhanas, les pratiques de l'absorption. Mais cette absorption, ça, c'est quelque chose de très artificiel, ça ne mène pas à l'éveil. Donc, ça peut être même être dangereux, parce qu'on peut tomber dans une sorte de paradis artificiel qui va nous faire coincer pendant des airs cosmiques à ressentir du plaisir, mais finalement à ne pas pouvoir pratiquer. Donc, le samatha, c'est bien, mais pas trop. Il faut faire gaffe, quoi. Hein? En revanche, vipassana, pratique de sati, ça, c'est ce qui mène à l'éveil, parce que ça permet de voir les choses telles qu'elles sont. Bon. C'est pas du tout ce qu'on trouve dans le canon. Pas du tout ce qu'on trouve dans le canon. Dans le canon, effectivement, samatha, ça désigne le calme, mais le calme, c'est quelque chose qui est absolument fondamental dans la voix. Vous avez de multiples façons de présenter la voix de manière progressive. Il y a un cœur dans cette formule qui peut varier d'un texte à l'autre, mais il y a quand même le cœur, c'est que le calme crée la joie, et la joie permet la concentration. Ou que la joie permet le calme, et que le calme permet la concentration. Enfin, il y a un triplé, comme ça. Il y a un triplé entre le calme, la joie et la concentration. Le recueillement. Samadhi. Et une fois qu'on a ça, une fois qu'on a ce trio-là, à ce moment-là, se produit la vision correcte des choses. Et donc là, en fait, quand on voit dans ces textes anciens le couple samatha vipassana, on dit c'est ça qui représente le recueillement. C'est ce qui se produit au moment du recueillement. Le recueillement, la concentration, permet de manifester le calme et la vision. C'est ça qui permet à la fois le calme et la vision. Donc il y a toujours ces deux éléments dans l'enseignement bouddhique. Et vous le retrouverez dans de nombreuses formules. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais ce samatha vipassana, donc, qui n'est pas forcément, encore une fois, lié ni au jhana ni à satipatthana, cette idée qu'il faut du calme et une vision qui fait des distinctions, elle apparaît aussi dans la définition de la libération. On parle de deux types de libération. La libération de l'esprit ou par l'esprit, d'un côté, et la libération par prajna, panya, en pali, la sagacité, je ne sais pas comment, c'est extrêmement difficile à traduire. Et ces deux libérations dont on ne sait pas forcément, enfin, il y a des textes qui les joignent systématiquement, il y en a d'autres qui les distinguent, c'est pas clair, mais elles sont reprises aussi dans un autre texte qui évoque justement samatha et vipassana, en disant que samatha permet de libérer l'esprit du désir, et que vipassana permet de libérer l'esprit de l'illusion. Donc il y aurait à ces deux états, samatha et vipassana, deux fonctions curatives ou libératoires du corps et de l'esprit, ou de l'esprit dans deux domaines. Pourquoi j'ai fait l'erreur en disant corps, vous allez comprendre pourquoi. Samatha libérerait du désir, vipassana libérerait de la non-vision, de l'illusion. Le désir, c'est ce qui est fondé sur la recherche du plaisir sensoriel, donc ce qui est lié au corps. L'illusion, c'est ce qui est lié aux opinions, donc au mental. Et vous retrouvez la division de base de Namarupa, ce qui relève du physique, ce qui relève du psychique. Et Samatha Vipassana, ici, ne sont pas présentés comme hiérarchisés, mais comme mis sur le même plan. C'est un doublet. Et dans le texte que j'évoquais tout à l'heure, où on a Viriya, l'effort, et Stiyati, et ensuite Samatha Vipassana, ou dans un autre texte, ils disent qu'ils arrivent ensemble, en couple. C'est le terme qui est employé dans le texte, en couple. Donc c'est les deux choses. La plupart du temps, le Bouddha enseigne, insiste sur le fait qu'on ne peut pas séparer le corps et l'esprit. La tradition ultérieure dira que c'est comme deux bottes de roseau qui s'appuient l'une sur l'autre. Si vous touchez à une botte, automatiquement la deuxième va être impactée. On ne peut pas avoir le corps sans l'esprit, on ne peut pas avoir l'esprit sans le corps. Le désir se manifeste à partir des plaisirs sensoriels qu'on connaît à partir du corps et des fonctions sensorielles du corps, les plaisirs sensuels, et l'ignorance à partir des plaisirs que l'on tire du mental. Et les deux sont liés. Et il faut se libérer des deux. Le calme va permettre de se libérer de cette soif des plaisirs sensuels, et la vision juste va permettre de se libérer des illusions, des opinions erronées sur la réalité des choses. Est-ce que vous me suivez complètement ou pas complètement? Parce que là, j'ai été peut-être un petit peu moins rigoureux dans mon exposé, là, à la fin, avec cette idée de couple.
Il y a quand même des circonstances où l'esprit n'est pas associé au corps. Par exemple, après la mort, enfin, et avant une renaissance.
D'où est-ce que vous tirez cette affirmation?
Ah non, je ne sais pas, c'est une question que je pose. C'est traditionnel.
C'est pas traditionnel du tout dans le Theravada. Ouais. Puisque au moment de la mort, justement quand le corps n'est plus fonctionnel, les éléments psychiques s'agrègent immédiatement à d'autres éléments physiques.
C'est immédiat.
Il n'y a que dans une certaine tradition indienne, une petite moitié des écoles bouddhiques indiennes qui vont poser un état intermédiaire, Antarabhava, où il y aurait ce qu'on appellera plus tard le courant de conscience, s'attache à une sorte de corps immatériel avant de se rattacher à un corps matériel. Et ça va donner dans le bouddhisme tibétain ce qu'on appelle les bardos. Mais ça, n'est absolument pas reconnu par la moitié des écoles indiennes dont est issu le Theravada. Donc ça, c'est pas du tout une idée qui est partagée par l'ensemble des écoles bouddhiques. Du tout. Donc dans le bouddhisme pali, dans la tradition Theravada, il n'y a jamais de corps séparé de l'esprit. C'est pas possible.
Dans le monde immatériel.
Alors, dans le monde des paradis du sans-forme, il n'y a pas de forme. Mais la forme, c'est pas le matériel, forcément. Mais là, effectivement, c'est un cas particulier. Non, mais c'est vrai. C'est exact. C'est un cas particulier. C'est les paradis du sans-forme.
Dans le monde des devas,
il y a de la forme. Y compris de la forme pure. Il n'y a que dans les paradis du sans-forme qu'il n'y a pas de forme du tout. Mais bon, c'est vraiment un cas très particulier. Pour ce qui est là du processus de renaissance habituel auquel on pense, et notamment avec l'histoire des bardos, c'est... Il n'y a pas un instant où, normalement, le corps et l'esprit sont séparés. Mais effectivement, sauf dans les paradis du sans-forme. C'est la seule exception.
Oui. Récemment, les scientifiques ont prouvé qu'il y a une sorte de conscience intuitive, non neuronale. C'est-à-dire qu'il est en dehors de notre système du cerveau.
Bah, de toute façon, pour la plupart des bouddhistes, le psychisme est situé dans le cœur, hein, il n'est pas situé dans le cerveau.
Bon, ça, entre guillemets.
Personnellement, vous le savez très bien.
On peut changer le cœur, mais on ne peut pas couper la tête.
Vous savez très bien que, de toute façon, le discours scientifique n'a pas du tout vocation à nous libérer de la souffrance. Si le Bouddha avait eu connaissance du discours scientifique qui est quand même apparu 20 siècles après son existence, je pense qu'il aurait dit que c'est un discours d'opinion, c'est une vision du monde comme une autre. Lui propose une vision du monde qui est censée nous libérer.
Oui, bien sûr.
Une vision du monde qui reste, encore une fois, un discours conditionné, fait de mots et de concepts, qui sont comme des serpents, et qui n'ont que pour seule utilité l'efficacité à nous faire entrer en contact avec la réalité. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'y attacher comme on ne s'attache pas à un radeau. Alors, si vous avez envie de vous attacher au discours scientifique pour l'opposer au discours du Bouddha, grand bien vous en fasse, mais personnellement, j'essaye de transmettre ce que je pense être le fondement de l'enseignement du Bouddha, qui nous dit supprimer toutes les opinions et tous les discours sur le monde pour en faire l'expérience directe. Donc je ne vais pas rajouter un discours scientifique à tous les discours spirituels, surtout que le discours scientifique n'a aucune vocation à nous libérer. Donc quel est l'intérêt d'amener du discours supplémentaire à un discours qui est déjà un serpent plein de poison et qui risque de nous faire du mal si on le saisit mal? Je ne vois pas l'intérêt de confirmer le bouddhisme par la science. Ça me paraît anti-bouddhiste même, pour dire les choses telles qu'elles sont.
Moi, particulièrement, je pense que...
Mais quand vous dites déjà « moi, particulièrement, je pense que », on est en plein samsara. On est en plein samsara. Monsieur Nguyen, arrêtons-nous. Arrêtons-nous. Mais moi, je dis que... Monsieur Nguyen, écoutez-vous. Écoutez-vous.
Moi, j'évite le mot personnellement que vous n'aimez pas, moi je dis singulièrement, pour éviter ce nom-là, mais c'est pour affirmer que c'est mon idée, c'est mon pensée, particulièrement,
oui.
Singulièrement, c'est tout.
Oui, mais on est ici pour essayer de comprendre les enseignements du Bouddha.
Oui.
Donc les enseignements du Bouddha ne nous invitent pas à se voir confirmer par le discours scientifique qui de toute façon n'existait pas à son époque et qui, encore une fois, du point de vue du Dharma, n'apporte rien du tout. Si ça ne fait que confirmer l'enseignement du Bouddha, autant se contenter de l'enseignement du Bouddha. Si ça ajoute quelque chose à l'enseignement du Bouddha, est-ce que ça ajoute quelque chose dans le but de nous libérer? Si ça n'ajoute rien du point de vue de la libération, mieux vaut ne pas l'évoquer. Mais si vous voulez enseigner sur le bouddhisme et la science, faites une conférence. Mais ici, on est là pour essayer comprendre les enseignements du Bouddha.
Bon. Il y a deux façons d'aborder.
Je ne pense pas qu'il y en ait 25 000. Je ne pense pas.
Oui. Pardon, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je vais essayer de reprendre les termes.
Oui.
Mais je risque de me tromper.
Oui, bon, c'est pas.
Je compte sur vous pour
discuter de l'enseignement, ça fait partie des... de la pratique.
Vous parliez tout à l'heure donc par rapport à la vision vipassana, c'est la vision divisée, juste des choses. Est-ce que c'est bien ça?
Discriminante, oui, distinctive, etc. Voilà. Oui.
Et c'est parce qu'on a une vision divisée des choses qu'elle est juste. Hein. C'est comme ça que moi je l'entends.
On peut vous le dire comme ça, oui.
Okay. Et là, dans ma mémoire, vous dites, là c'est Matrix. Donc j'imagine oui. que c'est une vision, enfin, une référence au film.
Oui, c'était une référence au film Matrix, simplement parce qu'à un moment, le personnage ne voit plus la réalité, mais comme de multiples choses qui se manifestent au lieu d'éléments qui semblent massifs. Donc c'est cette idée que l'aspect massif des choses, massif, c'est caillard en sanskrit, la chose, on ne voit plus des corps, mais il voit des lignes de chiffres qui défilent, etc. Donc c'est un petit peu, les auteurs de Matrix ont dit qu'ils s'étaient inspirés aussi du bouddhisme, hein, et notamment de l'école Vijñanavada, qui dit que tout n'est qu'esprit. Donc c'était simplement pour dire, voilà, quand vous avez cette image dans Matrix, où la réalité, telle qu'on la voit habituellement, explose, pour donner naissance à des sortes de fluides, de chiffres ou voilà, la Matrix, c'est un petit peu ça d'une certaine manière, c'est ce phénomène d'atomisation auquel nous invite le Bouddha.
Très bien.
Voilà, ça répond à votre interrogation.
Oui, donc cette vision donc atomisée des choses, est-ce que c'est ce que vous appelez la vision Vipassana?
Oui,
ça serait ça.
Ça serait ça.
C'est ce moment-là.
Ça serait ça, effectivement, ouais. Ça serait cette vision, cette scrutation discernante de toute la multiplicité des phénomènes derrière ce que nous croyons être une personne, un objet.
Un agglomérat.
Un agglomérat, un conglomérat. Voilà.
Mais ça, c'est pas non plus l'éveil, non plus, non ?
Alors, c'est ça la question. C'est effectivement, dans ces textes anciens, enfin, dans les textes canoniques, hein, puisque c'est pas forcément des textes anciens, même dans les textes relativement tardifs du canon, où Vipassana apparaît. Donc dans les textes les plus tardifs, c'est toujours Samatha Vipassana. Et Samatha et Vipassana sont présentés comme ce qui est, sinon constitutif, en tout cas conjoint à l'éveil. Conjoint à l'éveil. Conjoint à la libération. C'est le fait de voir, de comprendre le processus d'apparition et de disparition des ensembles, c'est ça qui constitue la clé de l'éveil.
Mais c'est ça l'éveil. Encore.
Ben si, Vipassana participe justement de cela, de cette vision de l'apparition-disparition des phénomènes. Parce que justement, elle ne voit pas le phénomène comme une masse, mais elle le voit comme un ensemble d'éléments qui apparaissent et disparaissent.
Mais est-ce que c'est pas dans un premier temps angoissant, justement, de
discerner? Ah bon, vous avez, bien sûr. Mais normal, c'est libératoire. C'est libératoire.
Il y a quand même un moment où on est un peu interloqué, j'imagine, non?
Si vous n'êtes pas interloqué sur la voie du Bouddha, c'est qu'à mon avis, vous ne l'avez pas emprunté.
Interloqué, angoissé, je veux dire.
Alors, effectivement, dans l'enseignement moderne sur Vipassana, et notamment, enfin moderne, classique, on va dire, et la succession des connaissances qui se produit au fur et à mesure de la pratique, vous avez des moments de peur extrême. D'angoisse extrême, une peur extrême qui sont dépassées, parce qu'effectivement, c'est le samsara, c'est le monde qu'on se construit et il s'écroule. Donc évidemment que le moi réagit. Le moi réagit, c'est le moi qui vit le plaisir et la souffrance, c'est le moi qui souffre. Mais dès lors que vous dépassez la vision du moi pour voir qu'il n'y a que des phénomènes qui apparaissent et qui disparaissent et que finalement le moi n'est qu'un phénomène qui n'existe que tant que vous le construisez, tant qu'il est construit, à partir du moment où il n'est plus construit, où il n'est plus reproduit, le moi ne se construit pas tout seul. Enfin, il est le résultat d'une construction. Hein? Il n'existe pas en lui-même, c'est ça que je voulais dire. Il n'existe pas en lui-même, il est le résultat d'une construction. Le développement de la connaissance fait que cette construction, cette reproduction ne se produit plus. Et donc il n'y a plus d'instance qui puisse éprouver ou du plaisir, ou de la douleur, ou de l'angoisse, ou de la peur, ou de l'amour, ou de la jalousie. Dès lors que le moi n'existe plus, n'est plus reproduit, il n'y a plus aucun sentiment. C'est ce qu'on appelle la fin des conceptions et des ressentis. Sanya, Vedana, Nirodha. Et ça correspond à une expérience qui est proche de celle de l'éveil. Je vous sens circonspecte.
J'ai juste du mal à imaginer que...
Vous pouvez pas.
C'est concomitant à cette université. Je pense qu'il y a une période, enfin pour certaines personnes, un peu difficile.
Madame.
Déstabilisante.
Madame. Ce qui se passe juste avant l'éveil, si vous voulez bien, on en reparlera quand on l'aura connu. Là, je pense qu'on est dans la spéculation la plus rigolote possible, mais pas franchement.
Ma question, c'était justement, est-ce que ça a été décrit, ça, dans certains textes ou pas?
Ce qui se produit au moment de l'éveil, pas dans ces termes. Non, pas dans ces termes. Non. Alors, évidemment, si on revient aux descriptions de l'éveil telles qu'on l'a dans les biographies des disciples du Bouddha ou dans les récits, vous avez ça aussi dans les récits des maîtres zen, par exemple, ou même les récits de Milarepa, etc. Vous en avez beaucoup dans la littérature bouddhique, hein, des récits de personnes qui connaissent ou des apparitions de connaissances ou l'éveil directement. C'est toujours un sentiment de libération. C'est vraiment ça qui est mis toujours en avant. Qu'il y ait des phases d'angoisse auparavant, oui, mais pas au moment de l'éveil. Pas au moment de l'éveil. Puisqu'encore une fois, ça serait absurde d'imaginer qu'il y a... puisque l'éveil, c'est le dépassement définitif du moi. Donc, s'il n'y a plus de moi, il ne peut plus rien avoir quelqu'un qui éprouve. Il n'y a pas une personne qui éprouve. Donc, on ne peut pas associer l'éveil à un ressenti, à une émotion. C'est impensable. De toute façon, ça fait partie du domaine de l'indicible, hein, puisque le langage, par définition, n'exprime que ce qui est conditionné. Et là, on est dans le domaine de l'inconditionné. Donc, il y a un problème. Oui ?
Est-ce que ce n'est pas aussi un abandon de toute forme de karma ?
Bien sûr, oui, tout à fait. Oui. Ben, l'éveil n'est possible qu'en même temps que la fin du karma, bien sûr. C'est la fin du karma. Puisque, encore une fois, karma, ça veut dire créer, ça veut dire fabriquer. Et l'éveil, c'est ce qui se produit quand vous arrêtez définitivement de fabriquer de l'illusion. Quand il n'y a plus d'illusion qui se fabrique. Encore une fois, la réalité n'est pas accessible tant que vous créez de l'illusion. Et donc, dans la pratique de certains exercices de développement des qualités de l'esprit, bhavana, vous avez la possibilité, par exemple, dans les jhanas, d'interrompre temporairement cette reproduction de création, mais quand vous sortez du jhana, la reproduction reprend. Donc ça n'est pas l'éveil. L'éveil, c'est quand cette reproduction s'arrête définitivement. À partir du moment où on atteint l'éveil, on ne produit plus aucun, on ne produit plus rien. On ne produit plus rien. Voilà. On ne s'associe plus à aucune production. Il n'y a plus d'association à aucune production.
Oui. C'était justement ma question. Quand vous dites il n'y a plus de sentiments, d'émotions, ce genre de choses-là. Est-ce qu'il n'y a plus de sentiments, d'émotions ou toute autre chose, ou de... d'appartenance à ces émotions. C'est-à-dire qu'elles peuvent, je pense que vous l'avez compris, apparaître, mais comme une pensée, les laisser passer.
Alors, vous voulez la réponse du Bouddha, la réponse du Theravada, la réponse des modernes?
La vôtre? Celle qui vous semble être la plus...
Moi, je ne parle jamais en mon nom. D'accord. Moi, c'est pour ça que je cite les textes. Je cite les textes. Mon point de vue n'a aucun intérêt. Je me le garde pour moi. Moi, j'essaye de vous apporter une connaissance que j'ai des textes qui ne sont pas forcément dans l'air du temps. Enfin, la réponse qu'ils ont, les informations qu'ils donnent ne sont pas forcément dans l'air du temps. Mais mon opinion personnelle, elle n'a strictement aucun intérêt. Voilà, aucun intérêt. Après, ce que je peux vous essayer de vous faire vous transmettre, c'est ce que j'ai compris des textes. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'il va y avoir des réponses différentes à votre question selon les époques. C'est extrêmement délicat, la question que vous posez. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on est là dans un domaine où le langage est très imparfait. Là, ça relève définitivement de l'expérience directe des choses. Le langage est basé sur... il n'y a qu'en chinois où il n'y a pas de sujet. Mais dans toutes nos langues indo-européennes, un verbe a forcément un sujet. Et donc là, on est dans une expérience où il n'y a plus de sujet. Comment voulez-vous que notre langage puisse s'en rendre compte? Donc voilà, c'est impossible. Donc effectivement, le Bouddha nous dit, il se produit des phénomènes, et notamment il y a un phénomène d'identification. On peut dire ça comme ça. Donc ce phénomène d'identification ne se produit plus. Mais dans les limites du langage qui est le nôtre, on ne peut pas dire les choses plus simplement, même si c'est abyssal comme point de vue. Ah.
Oui. Dans le Dhammapada, voilà, on voit quand même... Pardon. Dans le Dhammapada, on voit quand même que le Bouddha se souciait beaucoup de... Enfin, de savoir... Enfin, d'avoir une idée de la mort et de ce qui va se passer dans ce qu'il appelait l'autre vie.
Souvent, oui.
Dans plusieurs sens, la question de l'autre vie. Donc, alors l'autre vie, c'est peut-être pas forcément...
Alors, c'est pas exactement... c'est pas exactement l'autre... Là, encore une fois, il faut s'entendre sur le vocabulaire. La vie d'après. La vie d'après, ça me plaît mieux. Mais bon. J'essaye de trouver comment répondre à votre interrogation sans m'emmêler les pieds dans le tapis. De très nombreux textes nous disent que le Bouddha a un enseignement graduel. Et donc, il s'adresse aux gens en fonction de leur capacité et de leur réalisation. Tant que le phénomène d'identification au phénomène physique et psychique se produit, donc il y a croyance en l'existence d'un moi, ce moi se reproduit, renaît et a ce qu'on appelle des vies successives. Ce n'est qu'au moment de l'éveil que ça s'arrête. Même un noble disciple, qu'on appelle entrer dans le courant, il nous est dit à la fin du Satipatthana Sutta, que au plus, en sept vies, il parviendra à l'éveil. Mais il continuera à expérimenter sept vies. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours croyance en moi. Il n'y a plus croyance en l'individualité, mais il y a toujours croyance au moi. Cette identification au phénomène psychique et physique, elle existe toujours, même si elle est de plus en plus raffinée. Donc, tant qu'on n'est pas parvenu à l'éveil, l'idée qu'il existe une vie après la vie est toujours acceptable. C'est pas un problème. Ce n'est qu'au moment de l'éveil qu'il n'y a plus rien de nouveau. C'est la fin de l'expression qu'on trouve dans ce qu'on appelle le rugissement du lion. Hein, parce que l'expression qu'emploient ceux qui parviennent à l'éveil, la vie sainte a été menée, il n'y a plus rien à faire, plus rien de nouveau ici. Plus rien de nouveau ici. Voilà. Il ne se produira plus rien de nouveau ici. Et donc, ça veut dire aussi, il n'y aura pas de vie. C'est pour ça que la troisième connaissance que le Bouddha acquiert au moment de l'éveil, c'est le fait qu'il ne renaîtra plus. Mais ce n'est que au moment de l'éveil. Donc, tant qu'on n'a pas obtenu l'éveil, il y a une vie après la vie. Après, il y a plusieurs manières de comprendre cette expression-là, qui est Punna Bhava, qui littéralement peut se traduire par une existence nouvelle. La question est de savoir, est-ce que c'est une existence nouvelle ou une existence à nouveau ? À nouveau supposerait qu'il y a un même qui se reproduit. Or le Bouddha nous dit, rien ne se reproduit à l'identique d'instant en instant. Ça veut dire qu'il y a une existence de quelque chose qui succède à l'existence de quelque chose, qui succède à l'existence de quelque chose, mais il n'y a pas un même qui dure, il n'y a même pas un même qui se reproduit d'instant en instant de façon identique. Et dans la théorie du conditionnement, la notion de conditionnement, c'est-à-dire que ce qui se produit, ce qui existe à l'instant T, n'existerait pas s'il n'y avait pas l'existence d'un phénomène précédent à T-1, qui lui-même n'existerait pas s'il n'y avait pas une existence particulière à T-2. Mais ça ne veut pas dire que ce qui existait à T-2 se reproduit à T-1, qui se reproduit à T. Ça veut dire que T n'existerait pas s'il n'avait pas existé T-1. Mais ce n'est pas le même.
ce sont des conditions.
Il y a un phénomène qui se produit suite à la réunion, la convergence de conditions particulières, mais les phénomènes qui se produisent successivement ne sont jamais les mêmes. Ils sont même pas identiques, ils sont juste semblables. Apparemment identiques et toujours singuliers. Pour bien comprendre ce que c'est que le conditionnement, repensez au premier maillon. Pas dans le sens habituel, mais dans le sens qui m'importe pour que vous compreniez le conditionnement, c'est-à-dire le dernier. Quand on vous dit, il n'y aurait pas de mort s'il n'y avait pas de naissance. C'est pas la naissance qui provoque la mort. La mort, elle est provoquée par la vieillesse, elle est provoquée par la maladie, elle est provoquée par un accident, mais elle n'est pas provoquée par la naissance. Mais elle est conditionnée par la naissance. C'est-à-dire que si il n'y avait pas de naissance, il n'y aurait pas de mort. Parce que ne peut mourir que ce qui est né. Mais on ne vous dit jamais que c'est la naissance est la cause de la mort. Il faut arrêter de parler de loi de cause à effet dans le bouddhisme. Ça n'a aucun sens. Le Bouddha nie la loi de cause à effet. Il nie la loi de cause à effet. Il remplace la loi de cause à effet par la loi de conditionnement, qui justement n'a rien à voir. Ce n'est pas la naissance qui cause la mort. La naissance conditionne la mort. C'est pas du tout la même chose. Donc l'existence ultérieure est conditionnée par la précédente, mais elle n'est pas causée par la précédente. Donc quand on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui passe d'une existence à l'autre? Il n'y a rien qui passe d'une existence à l'autre. Simplement, la deuxième existence n'existerait pas s'il n'y avait pas eu la première. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui passe de l'une à l'autre. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça.
On peut dire la même chose pour notre vie actuelle.
Mais bien sûr, d'instant en instant. C'est justement ce que Vipassana est censé voir. C'est que d'instant en instant, il y a une succession de phénomènes qui se produisent, qui n'existeraient pas si les phénomènes immédiatement précédents n'avaient pas existé, mais qui ne sont pas les phénomènes préexistants. C'est pour ça que vous êtes complètement atomisé et que c'est très angoissant. Oui. Parce que tout ce sur quoi vous avez fondé votre existence est sans fondement.
C'est une bonne angoisse.
Ah, mais c'est une angoisse libératoire. C'est une angoisse libératoire. C'est une angoisse libératoire. Et contrairement à ce qu'on pense souvent bêtement, c'est très responsabilisant.
Et soulageant.
Ça peut soulager, oui, effectivement. Si on recherche la fin de toute insatisfaction, ce qui est quand même le but de l'enseignement du Bouddha, c'est ce qu'il n'arrête pas de dire, effectivement, dans ce cas-là, c'est soulageant.
Parce que ça crée un détachement, enfin aussi si on...
Ben c'est le but. C'est le but, c'est de se détacher. Se détacher de tout. Absolument de tout. Absolument de tout. Et le détachement le plus difficile, c'est celui qui arrive en dernier, c'est le détachement vis-à-vis de moi. L'idée que je me fais de moi-même. Bon, on s'éloigne de Vipassana, mais en fait, on n'en parle que de ça. Hein.
J'ai une question à propos de... quand vous avez évoqué l'attachement aux opinions et notamment oui. Par rapport à Vipassana, j'ai pas exactement compris en fait, c'est quoi exactement les risques ou les dangers d'être attaché à une opinion, notamment sur Vipassana.
L'attachement aux opinions de façon générale nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est, de l'expérimenter telle qu'elle est, puisqu'on va, quand on est attaché à une opinion, on va ne voir de la réalité que ce qui confirme notre opinion, parce que c'est ça qui nous fait plaisir. Et le but de la vie samsarique, c'est d'avoir le maximum de plaisir et d'éviter le maximum de souffrance. Donc d'éviter au maximum d'être contredit, d'être contrarié, d'être attaqué, d'être mis en danger, etc. Donc si vous êtes attaché à une opinion, quelle qu'elle soit, donc aussi vis-à-vis de Vipassana, mais aussi vis-à-vis de n'importe quoi, vous n'expérimenterez pas la réalité.
Et l'attachement de cette pratique-là, par exemple ?
Mais peu importe. L'attachement, par définition, est ce qui vous empêchera d'expérimenter la réalité. Parce que l'attachement n'aura qu'un seul but, c'est d'être confirmé. Donc il ne voudra que ce qui le confirme, quitte à le créer de façon totalement illusoire. C'est pour ça qu'il faut lâcher prise. C'est pour ça que dans tous les textes bouddhiques de toute école, on vous dit que si vous voulez suivre un maître, il faut être prêt à sauter du haut de la falaise si vous le demandez. Parce que si vous restez attaché à quoi que ce soit, bah vous ne connaîtrez jamais la réalité. Vous ne connaîtrez que la vision illusoire que vous vous ingéniez à créer en permanence, pour justement ne pas la voir, parce qu'elle ne correspond pas. Vous savez, je cite sans arrêt cette petite phrase d'Ajahn Neb, instructrice de Thaïlandaise. À partir du moment où ça ne correspond pas à vos souhaits et à vos désirs, vous êtes sûr que c'est la réalité. Elle a tout dit quand elle a dit ça. Donc si vous souhaitez, d'une certaine manière, ce que les maîtres zen, vous, quand ils vous posent une question, vous répondent en vous fracassant la jambe dans une porte ou en vous hurlant dessus, etc., c'est de vous dire, mais arrêtez, expérimentez la réalité. C'est la seule chose qui importe. Quand l'enseignement de la Terre pure vous dit, ayez foi dans le vœu du Bouddha, parce que si vous pensez qu'il est un Bouddha, ce qu'il a promis va forcément se réaliser, parce que c'est la loi de la coproduction conditionnée, et qui veut ça, lâchez tout, ayez foi. De toute façon, la foi, dans le bouddhisme, c'est la première marche, c'est le premier pas, c'est la première chose à expérimenter, à développer. Arrêtez de dire « moi je ». C'est ce que toutes les écoles bouddhiques vous disent. Toutes. Sans exception. Mais c'est le contraire de ce que le moi veut entendre. Donc ce que je vous dis pour Vipassana, c'était provocateur de ma part. Mais c'est valable pour tout. C'est-à-dire que Vipassana n'est qu'un exemple parmi d'autres. C'est valable pour tout, absolument tout. L'attachement au rite, l'attachement au moi, l'attachement aux passions, l'attachement amoureux, l'attachement aux enfants, l'attachement à ma voiture, à mes vêtements, à ma coiffure, à mes lunettes, à mes chaussettes, tout, tout, tout. Il faut lâcher prise. Si vous voulez expérimenter la réalité, il faut lâcher prise. Oui.
Alors comment se fait-il que Vipassana soit redevenu ou venu il y a peu d'une si grande importance au niveau
ce sont les conditions.
Du mouvement bouddhique?
Ce sont les conditions. Après, comme je vous l'ai dit au commencement, l'enseignement du Bouddha a une forme, forcément, puisqu'il passe par le langage, donc... Il a forcément une forme qui est conditionnée par l'époque, par les circonstances, etc. Après, ce qu'il faut voir, c'est justement, c'est pas s'attacher à la forme, c'est voir ce qu'il y a dans l'expérimentation. Est-ce que le but, le Bouddha n'arrête pas de le dire, mon seul but, c'est d'être efficace pour vous permettre d'expérimenter directement la réalité. Donc c'est le seul critère. Est-ce que ce que l'on vous enseigne et la façon dont vous le comprenez, et dont vous le mettez en pratique, hein, parce que ça aussi c'est important, l'enseignement peut être très bon, mais si vous le mettez correctement en pratique. Hein, et comme chacun est un peu différent, chaque époque on a nos défauts, on a nos conditionnements, donc qu'il soit nécessaire d'adapter l'enseignement aux conditions, ça n'a rien de choquant. Hein, mais ça ne sert à rien de s'y attacher non plus. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est la vocation, c'est d'être efficace. Et donc, la seule moyen de voir si c'est efficace, c'est de le mettre en pratique, et on voit bien si c'est efficace ou pas. Si c'est pas efficace, c'est qu'il y a une erreur de casting. Il y a un problème. Donc, regardez autour de vous, si les instructeurs qui vous transmettent ces enseignements sont bien, comme le dit le Bouddha sans arrêt dans ses textes, hein, un bon instructeur, un véritable ami de bien, et celui qui est sans aversion, sans avidité et sans errance, sans égarement. Et ça, c'est à vous de faire le boulot. C'est à vous de le voir, c'est à vous de le regarder.
Et, par exemple, c'est Goenka qui a disons, ressorti...
Oh, il n'y a pas que Goenka.
Non,
il n'y a pas
Sana.
Pas du tout. Il n'est pas du tout le seul. Vous avez la lignée d'Ajahn Mom qui ensuite est représentée par Ajahn Chah, qui est le plus récent et le plus connu. Vous avez la lignée de Mahasi Sayadaw, vous avez la lignée d'Ubakin qui a été représentée par Goenka. Vous avez tous les grands enseignants les plus connus, surtout en Occident, du Theravada, enfin des pays d'Asie du Sud-Est, enseignent tous Vipassana, quasiment tous. Il n'y a pas que, mais ce sont ceux qu'on entend le plus, et ce sont ceux qui ont le plus de succès, et ce sont ceux qui sont le plus médiatiques, médiatisés ou mis en avant. Mais il y en a d'autres qui enseignent déjà, hein, aussi, et pas du tout Vipassana. Alors j'ai un trou, j'arrive plus à retrouver son nom, c'est un birman, quelqu'un connaît ou pas? Il n'y en a qu'un.
La question.
Un des rares enseignants birmans qui enseigne des jhanas, et pas vipassana. Son nom m'échappe là, j'ai un trou. Zut. Je le redirai un jour, mais là j'avoue que ça m'échappe. Ça m'échappe. Et après, bon, l'histoire de j'ai pas envie de rentrer dans l'histoire de Vipassana et pourquoi aujourd'hui on n'enseigne que ça, etc. Parce que ça pourrait paraître polémique. Je souhaite pas la polémique. Hein. En plus, j'ai pris le précepte tout à l'heure de Musavada Velamani Sikapadam Samadhi. Donc ce que je dis, c'est pour créer, pour que ce soit utile. C'est pas pour créer la dissension et pas pour créer l'attachement. En tout cas, j'essaie. Ce qui m'importe, c'est que vous compreniez qu'est-ce que c'est dans les textes anciens, quel que soit l'emploi qu'on en fait aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'essentiel, d'absolument essentiel. Mais encore une fois, je pense que le fait de savoir comment c'est employé dans les textes anciens permet peut-être d'avoir un regard nouveau sur la pratique qui nous est proposée aujourd'hui sous ce nom-là.
Ça nous met en perspective.
Voilà, parce que ça n'est pas une pratique dans les textes anciens. C'est un phénomène qui se produit à l'issue d'une pratique, mais ça n'est pas une pratique, ça n'est pas une méthode. Mais donc, le terme qui est représenté par Vipassana, la qualité de l'esprit qui est représentée par Vipassana, a priori, c'est celle qu'on doit attendre de la pratique de ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, Vipassana. Là où je peux devenir polémique, et je le serai volontiers, parce que je pense encore une fois que c'est utile, c'est quand on se trompe sur la signification du mot vipassana. Et si on vous dit que vipassana, c'est une sorte d'observation contemplative et sans jugement panoramique des choses, là je dis c'est un contresens. Ce n'est pas ça. Vipassana, c'est une scrutation de façon à voir, derrière une apparence unitaire, la multiplicité des éléments. Et ça, c'est conforme à l'enseignement du Bouddha, à ce qui est dit dans des milliers de sutras. Je n'ai jamais lu dans aucun sutra du canon Pali qu'il fallait avoir une vision contemplative neutre et panoramique de l'univers. Ça n'existe pas. Qu'on m'apporte le texte. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais lu. Alors, je n'ai pas lu les 10 000 textes du canon, et j'en ai lu quand même quelques centaines, peut-être même quelques milliers, j'en sais plus au point où j'en suis, mais je n'ai jamais vu ça. Donc il y a des absurdités qui sont dites autour de Vipassana et sur Vipassana. Hein, de même que sur la pratique de Sati en tant que telle. Et ça, je parlerai plutôt au mois de juin, la prochaine fois que je viens. Donc c'est ça aussi. Moi, je souhaite vous être utile. Il y a des erreurs qui sont commises. C'est pas parce que quelqu'un se dit maître bouddhiste, instructeur bouddhiste, et qui vous transmet quelque chose que c'est forcément juste. Les bouddhistes, en 25 siècles, ils ont émis un certain nombre de règles pour vérifier si un enseignement était bouddhiste, conforme aux enseignements du Bouddha. Et la première chose, c'est de voir si c'est présent dans les suttas. Est-ce que c'est conforme à ce qui est dit dans les suttas ? S'il y a quelque chose qui n'est pas conforme à ce qui est dit dans les suttas, vous pouvez considérer que ça n'est pas l'enseignement du Bouddha. Donc ça peut être différent dans la forme de ce qui est dans les suttas, mais ça ne doit pas être en contradiction ou absent des suttas. Or, il y a des choses qui se disent aujourd'hui au nom du bouddhisme qui ne figurent absolument pas dans les suttas et qui sont en contradiction avec les suttas. Donc là, sonnette d'alarme.
Ah. Est-ce qu'on peut dire, pour simplifier, que c'est souvent parce qu'il vient du tantra ?
Pas du tout.
Non.
Absolument pas. D'accord. Ah non, là, c'est alors, tous dans le même panier. Hein. Quel que soit l'école, quel que soit le courant, quel que soit le pays d'origine, c'est pas parce qu'un instructeur vient d'Asie qu'il est savant et qu'il a toutes les connaissances et qu'il a une bonne transmission. Il peut aussi faire des erreurs. Hein? C'est pas... Ça, c'était le gros défaut qu'on a eu vis-à-vis de nombre d'enseignants asiatiques, parce qu'ils venaient d'Asie, on était persuadés qu'ils savaient tout. Ben non, il y en a qui ne savaient pas tout, et puis il y en a qui ont fait des erreurs. La nature est humaine, et elle est imperfectible. Hein. Mais c'est... Non, non, moi, les tantras peuvent être tout à fait en accord avec ce qu'il y a dans les sutras. Après, c'est une forme particulière, il faut bien le comprendre. Après, il y a aussi des sutras. Il y a une tradition sutra du canon Pali, il y a un sutra sanskrit, il y a un sutra, il y a des sutras Mahayana, du Mahayana. Normalement, c'est un développement qui ne doit pas être en contradiction avec le contenu des sutras anciens. Il y a des évolutions. À vous d'apprendre, de réfléchir, de voir. Hein? Encore une fois, l'étude et la discussion de l'enseignement, ça fait partie de la pratique. Ça fait partie de la pratique. Justement pour ne pas être trop attaché à la forme. Et bien comprendre que ce qui compte, c'est l'efficacité de ces enseignements pour vous faire expérimenter la réalité directe. C'est ça qui est important. Moi, je ne hiérarchise pas les écoles. Je ne dis pas qu'il y en a qui sont supérieurs à d'autres. Non, elles sont différentes. Elles ne sont pas inférieures et supérieures, elles sont différentes. Ces différences sont-elles justifiées ? Elles le sont certainement à une époque, à un moment, dans des circonstances particulières, etc. Tout ça est à prendre en considération, mais il ne faut pas juger d'emblée. Hein ? Faut pas juger d'emblée, et puis il faut se renseigner, il faut réfléchir, il faut scruter. Il faut scruter. Vous savez, Panya, Prajna, qui est la connaissance suprême de tous les phénomènes conditionnés, dans le langage courant, là c'est une dimension d'ordre spirituel, hein, mais ça s'emploie aussi dans le langage courant, et c'est d'une certaine manière c'est l'équivalent de l'analyse qu'on fait, comme vous parliez tout à l'heure d'analyse, l'analyse qu'on fait des choses. Hein, c'est le fait de connaître les tenants et les aboutissants de ce qui se produit. Donc dans le cadre bouddhique, prajna, c'est le fait de connaître les phénomènes en tant qu'ils sont conditionnés, mais dans la vie de tous les jours, c'est de savoir bah, pourquoi je me suis cassé la figure en allant à tel endroit, bah tiens, bah oui, parce qu'il y avait une flaque d'huile. Bah, voilà, ça c'est du prajna aussi. Mais c'est la prajna ordinaire, c'est pas la prajna spirituelle. Bon, bah, il faut pratiquer prajna en permanence. Il y a une expression dans les textes bouddhiques qui revient aussi vraisemblable assez régulièrement, je pense notamment au Kalama Sutta. Ne croyez pas à cela parce que cela vous a été rapporté, parce que c'est le maître qui l'a dit, ou parce que vous pensez que c'est juste. Mais, quand vous l'avez entendu dire, quand vous savez que c'est approuvé par les sages, ceux qui savent, vijnana, vignu, ceux qui savent, hein, ont la connaissance discriminante, qui savent distinguer ce qui est bien de mal, et parce que vous l'avez expérimenté. Et là, encore une fois, il y a l'idée que... il y a des gens qui ont cette capacité, et cette capacité est importante, de savoir distinguer les choses. Ça revient constamment dans les textes bouddhiques, constamment. Pour mettre fin à l'illusion, il faut savoir distinguer les choses. Quand vous regardez la définition de l'effort dans l'octuple sentier, reconnaître les tendances qui sont mauvaises et faire en sorte qu'elles disparaissent et qu'elles n'apparaissent plus. Reconnaître les tendances qui sont favorables, les faire apparaître et faire qu'elles se développent. Qu'est-ce que c'est ? On vous demande de distinguer le bien du mal. Et ça revient sans arrêt dans les textes bouddhiques. On ne vous demande pas de regarder les choses juste apparaître et disparaître. Il y a tout un boulot d'abord pour distinguer ce qui est bien de ce qui est mal et de faire en sorte que ce qui est mal disparaisse et ne se reproduise plus et que ce qui finisse par n'apparaître plus, ce ne soit que ce qui vous est efficace. Oui.
Est-ce que vous pourriez revenir doute sur la différence entre la relation de cause à effet et la coproduction conditionnée, s'il vous plaît.
En 30 secondes.
En bref.
En deux mots. En bref. Dans son acception courante, parce qu'après, si c'est un philosophe qui répondrait à la question, il rentrerait dans des développements que, dans lesquels je ne vais pas rentrer. Quand on parle de loi de cause à effet, on dit, s'il y a telle cause, il y a automatiquement tel effet. Et on est dans une sorte de loi de déterminisme. Le Bouddha, lui, ce qu'il a réalisé sous l'arbre de l'éveil, c'est que quand tel effet avait eu lieu, il n'avait pas fallu une cause, mais tout un ensemble de conditions. Et que aucune de ces conditions-là n'était suffisante à elle seule. On ne pouvait pas dire, dans les textes anciens, on dit que le Bouddha refuse la cause unique. Il n'y a pas une cause unique au phénomène, à ce qui se produit. Il y a tout un ensemble de conditions. Mais ces conditions-là n'ont pas pour seul effet cet effet-là. Elles créent des conditions qui font que cet effet va se produire. Mais chacune de ces conditions-là n'est pas suffisante à elle seule pour expliquer ce phénomène. L'exemple que je donne en cours, c'est qui est un peu traditionnel aussi, je vais prendre un exemple traditionnel.
Le pépin.
Lorsque vous faites un feu à partir de la bouse d'une vache, comme ça se faisait en Inde à l'époque, vous avez une bouse, vous prenez un miroir, une loupe, et vous focalisez les rayons du soleil à travers la loupe sur la bouse. Et ça vous donne un feu. Le feu n'existe pas dans la bouse. Le feu n'existe pas dans la loupe. Le feu, il existe dans le soleil, mais enfin, on ne peut pas dire que c'est le soleil directement, le feu du soleil qui vient directement dans la bouse. Mais le feu de bouse n'existe pas s'il n'y a pas la bouse, la loupe et le soleil. Donc aucun de ces trois-là n'est la cause du feu de bouse. Mais la réunion de ces trois conditions fait que le feu de bouse apparaît. Ça, c'est un exemple que vous trouvez dans le Visuddhimagga. Sinon, l'exemple du pommier. Tout le monde est focalisé en Occident sur le fait qu'il faut un pépin de pomme pour faire un pommier. Oui, mais ça ne suffit pas. Il faut de l'eau, il faut de l'air, il faut de l'espace, il faut la force gravitationnelle pour qu'il pousse dans un sens. Et si on veut qu'il donne des pommes, il faut des abeilles pour polliniser. Donc pour que le pépin de pomme à lui seul n'est pas la cause du pommier. Vous avez de la terre, vous avez de l'eau, vous avez de la chaleur, vous avez de l'humidité, vous avez plein de choses, y compris les types zzzz. Et tout ça, ce sont les conditions pour qu'il y ait un pommier qui donne des pommes.
C'est assez différent du bouddhisme de Nichiren dans ce sens-là. Ils sont assez focalisés sur la loi de cause à effet.
Non, c'est pas le bouddhisme de Nichiren qui est focalisé sur la loi de cause à effet, c'est tous les occidentaux à qui on a exposé mal le bouddhisme et qui, comme la plupart des gens, se retrouvant dans quelque chose d'inconnu, le ramène à quelque chose de connu. Donc, ça a paru à certains correct et intelligent de parler de loi de cause à effet à propos du bouddhisme. Ça a été une erreur. Je connais des gens dans tous les courants du bouddhisme qui disent ça, y compris des profs à l'IEB. Ça fait 20 ans que je leur dis qu'il ne serait mieux pas d'employer ça pour l'efficacité de leur enseignement, mais ça n'empêche. Donc, c'est pas du tout spécifique à un courant du bouddhisme en Europe. C'est dans tous les courants du bouddhisme que vous entendez ça. Vous n'arrêterez pas de l'entendre dire chez les Tibétains. La loi de cause à effet, la loi de cause à effet, on en entend parler partout. C'est une absurdité. C'est une absurdité. De même que vous entendrez partout parler de réincarnation, pour les Dalai Lama, etc. C'est une absurdité. De même que vous entendrez parler de méditation, c'est une absurdité. De même que vous entendrez parler de moines, c'est une absurdité. De même que vous entendrez parler de conscience, c'est une absurdité.
Interdépendance.
Ça fait partie de toutes les erreurs qu'on commet depuis un siècle dans la transmission du bouddhisme. Mais les Chinois ont fait les mêmes erreurs aussi quand ils l'ont su au début de l'ère chrétienne. Ils ont utilisé tous les mots qui venaient du taoïsme pour présenter le bouddhisme. Nous, on a utilisé tous les mots qui venaient du christianisme, de la psychanalyse ou de la philosophie grecque. Ah oui, mais le bouddhisme, c'est ni de la psychanalyse, ni du christianisme, ni de la philosophie grecque. Donc, voilà, la loi de cause à effet, c'est de la philosophie. Mais le Bouddha n'a jamais enseigné de la philosophie occidentale. Il a enseigné Pratitya Samuppada. Pratitya Samuppada, ça veut dire ceci apparaît en raison de d'une convergence. Ceci apparaît en raison d'une convergence. C'est ça, traduction mot à mot. Ben, c'est pas ce que dit loi de cause à effet. Donc ça, c'est des problèmes de traduction.
Par rapport aux quatre nobles vérités.
Qui ne sont pas des quatre nobles vérités, mais les quatre aspects de la réalité tels que les voient les nobles.
Okay. Donc on traduit souvent la deuxième noble vérité comme l'origine de la souffrance. Est-ce qu'il faudrait dire du coup que c'est une condition de la souffrance?
Alors le terme qui est employé, c'est le terme de Samuddaya, qui veut dire ce qui concourt à son surgissement.
Voilà. Donc, c'est une condition.
Généralement, on dit que ce deuxième aspect de la réalité tel que les voient les nobles est justement une présentation de la coproduction conditionnée. Donc, du conditionnement. Donc, si on en fait une présentation de la loi de cause à effet, on a tout faux.
Alors, oui. C'est peut-être un autre débat, mais alors comment est-ce qu'on peut percevoir le karma dans tout ça? Parce que souvent, justement, le karma est traduit de façon un petit peu simple comme loi de cause et effet. Enfin, je veux dire, en fonction
alors,
des actions.
La loi de causalité, ça, c'est la mauvaise traduction de Pratitya Samuppada, que je préfère appeler la coproduction conditionnée ou tout simplement le conditionnement. Le karma obéit à la loi de conditionnement. Ça n'est qu'un aspect de la loi de conditionnement. C'est-à-dire que le karma, ce que l'on fabrique, ce que l'on fait, bah, cette action est un phénomène comme n'importe quelle action, comme n'importe quel phénomène, pardon, et donc est lui aussi conditionné. Notre fabrication, la fabrication, elle est conditionnée et elle apparaît et disparaît à chaque instant, comme tout autre phénomène. Donc le karma, ce n'est qu'un phénomène parmi les autres qui est soumis au conditionnement. Donc il ne peut pas être en désaccord avec la loi de conditionnement, puisqu'il n'en est qu'un aspect.
Et alors, le Bouddha n'a pas parlé d'empreinte karmique, par exemple
Alors, je n'ai jamais vu dans le canon pali, encore une fois, je me réfère au seul canon pali, de termes qu'on puisse traduire par empreinte. En revanche, il y a des termes qu'on pourrait traduire par tendance. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que empreinte, ça voudrait dire que c'est quelque chose qui demeure. Or, par définition, le bouddhisme enseigne que rien ne dure. Ah, c'est le premier dogme. Anicca, non durable, non durabilité de tout ce qui apparaît et disparaît. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui perdure. C'est absurde. En revanche, quand on parle de tendance, on parle de choses qui se reproduisent. Mais dans le cadre du conditionnement, si les choses se reproduisent, elles ne sont jamais identiques à elles-mêmes d'instant en instant. Elles sont simplement semblables, d'où cette idée de tendance. Tout ça est extrêmement cohérent. C'est ça, quand on vous dit qu'il faut vous référer au sutta. Si vous êtes en face d'une explication, d'une notion qui n'est pas en cohérence avec les autres, c'est qu'elle est mal présentée, qu'elle a été mal comprise ou qu'elle est complètement fausse. Il faut que tout ça soit cohérent. C'est ce qui a toujours été le plus agaçant pour les contradicteurs des bouddhistes, c'est que le système bouddhiste est d'une cohérence extrême. Extrême. Et si vous tirez un fil, vous avez tout qui vient. Donc vous ne pouvez pas... Ce que je vous dis de Vipassana n'est pas en contradiction avec ce qu'on dit du karma, avec ce qu'on dit du Pratitya Samuppada, de ce qu'on dira de tout le reste. Tout se tient. Tout se tient et finalement, les bouddhistes eux-mêmes ont défini, de toutes écoles confondues, les quatre critères qui font qu'un enseignement est conforme à la parole du Bouddha. Rien n'est durable, tout est conditionné, ce qui est conditionné et non durable est insatisfaisant, mais calme est l'extinction. Le Nibbana. Dès lors que vous avez ces quatre éléments, mais la totalité de ces quatre éléments, vous êtes en conformité avec le Bouddha Vachana, la parole du Bouddha. Il faut les quatre. Tout est conditionné, rien n'est durable, rien n'est satisfaisant de ce qui est conditionné, hein. Mais en revanche, l'inconditionné, lui, est satisfaisant, parce qu'il est inconditionné. Le Nibbana est le seul. Le Nibbana est un phénomène inconditionné. Je ne dis pas le seul, puisqu'il y a des écoles qui disent qu'il y en a d'autres. Bon, je t'ai parti sur le principe que de toute façon je parlerai beaucoup plus que le temps qui m'était normalement imparti. Du fait que l'écoute de l'enseignement et la discussion sur l'enseignement est une pratique essentielle qui n'est pas assez proposée dans les centres bouddhiques occidentaux. Maintenant, si vous n'avez plus de questions.
Est-ce que c'est le nom Paok que vous cherchez tout à l'heure?
Le nom
Paok.
Paok, c'est ça, exactement. Le birman qui enseigne les jhanas. A-U-K. Paok. Aok. Pa, c'est un titre, comme Achan en Thaïlande. P-A, plus loin, A-U-K. Alors ne cherchez pas en Occident qui transmet ses enseignements, il n'y a personne. Si vous voulez apprendre auprès de lui, il faut aller en Birmanie.
Hein? Il y a Bram.
Oui, mais il est en Australie, alors c'est encore plus loin. vous facilitez pas les choses. Non, c'est à un moment, il y avait quelques-uns de ses disciples français qui avaient pensé ouvrir un centre en France. Ils m'avaient contacté à l'époque, d'ailleurs. Et je n'ai jamais eu plus de nouvelles, donc je suppose qu'ils ont renoncé, parce que je n'en ai jamais entendu. J'ai essayé de chercher sur Internet, il n'y a jamais eu aucun centre, en tout cas en France. Et je ne suis même pas sûr qu'en Europe, il y en ait. Oui.
S'il y a possibilité de poser une autre question.
Oui, bien sûr.
Vous nous avez parlé d'éveil.
Oui.
Mais pas du nirvana, qui pour moi est la fin de toute souffrance. Et je me suis demandé pourquoi.
Nibbana est un terme délicat, parce qu'il a plusieurs plusieurs emplois. Il peut désigner plusieurs choses. Éveil, c'est plus simple. On peut expérimenter Nibbana sans être pour autant éveillé. Le Nibbana, c'est l'inconditionné. Donc on peut expérimenter l'inconditionné même si on n'est pas éveillé, ce sera de façon temporaire. L'éveil, c'est vraiment quand on a mis fin au samsara, quand on a mis fin aux reproductions du moi, quand on a mis fin à toute insatisfaction. Donc il n'y a pas d'insatisfaction dans le Nibbana, mais l'expérience du Nibbana n'est pas équivalente à l'extinction de toute insatisfaction. Ça peut être une extinction temporaire. Donc on va distinguer plusieurs types de Nibbana, alors qu'il n'y a qu'un seul éveil. Donc l'éveil est plus... c'est une éradication définitive de ce qui constitue le samsara. L'expérience de Nibbana n'est pas forcément définitive, puisque vous l'expérimentez justement pendant ce qu'on appelle aujourd'hui la pratique de Vipassana. Vous avez des expériences de Nibbana. C'est pas pour autant que vous êtes un éveillé. Ça répond à votre question ?
Suffisamment.
Bon, après, le 8 juin, je fais une journée entière sur Nibbana à l'IEB. Donc si ça vous intéresse, il reste des places.
Vous parliez de milliers de suttas.
Oui.
Ils ont été écrits, parce que ça a été écrit, donc.
Alors, ça a été transmis, les suttas ont été transmis oralement, pour commencer, par des lignées de récitants, les banaka, c'est-à-dire les récitants. Donc il y avait les récitants du Digha Nikaya, les récitants du Majjhima Nikaya, les récitants du Samyutta Nikaya, les récitants des Jataka, les récitants de... etc. Donc ils pouvaient avoir un même enseignement, pouvait se trouver dans plusieurs lignées avec des formes différentes. C'est pour ça qu'on retrouve des enseignements qui sont différents.
Ils ajoutent par la suite,
non? Alors après, il a été en constante évolution au fil des siècles, jusqu'au moment où il a été mis par écrit pour la première fois à Ceylan, aux alentours de l'ère chrétienne, puisque ça a été fait pendant le règne d'un roi qui a régné entre moins 20 et moins avant et après Jésus-Christ. Mais toutes les écoles bouddhiques indiennes n'ont pas mis leur canon par écrit. Les Chinois l'ont mis directement par écrit, ce qu'ils avaient reçu à travers l'Asie centrale ou ce qu'ils sont allés chercher en Inde, etc. Mais la version orale est toujours considérée, en tout cas dans l'Asie du Sud, comme plus fiable que la version écrite. C'est-à-dire que lors de la dernière révision du canon Pali, au sein du Theravada, qui a eu lieu en 1956 en Birmanie, c'est la version écrite qui a été corrigée d'après la transmission orale.
Par des savants,
par des bhikkhus, par des banakas, des banakas, des récitants, c'est-à-dire des gens qui apprennent le canon par cœur. Mais quand ils apprennent le canon par cœur, généralement ils apprennent aussi par cœur les commentaires. Les commentaires, les attakata, sont des textes qui expliquent mot à mot les suttas. Donc vous imaginez, entre 9000 et 12000 suttas, dont tous les mots sont commentés. C'est une littérature gigantesque. Les attakata, les commentaires, n'ont jamais été traduits en langue occidentale. Ils n'existent que en pali.
Et le roi dont vous parliez, c'est Asanga, ça ?
Le roi ? Ah non, 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 c'est Duttagamani. Non, non, c'est un roi singalais. Asanga, c'est pas un roi, c'est un maître mayaniste. Ashoka, vous avez dit.
Ashoka.
Non, non, c'est pas sous Ashoka. À l'époque d'Ashoka, le canon n'était pas par écrit. N'était pas mis par écrit. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'Ashoka se fait connaître donc, par les édits gravés sur pierre qu'il laisse en Inde, et c'est la première trace d'écriture en Inde. Avant, il n'y a aucune trace d'écriture, en plus ancienne. Et dans un de ses édits, il recommande aux bhikkhus la lecture d'un certain nombre d'enseignements du Bouddha. Et il donne des titres. Et il n'y a aucun des titres qui correspondent à des suttas qu'on connaît. Ça veut dire que les titres actuels des suttas n'existaient pas à l'époque d'Ashoka, un siècle et demi après la disparition du Bouddha. Ça ne veut pas dire que les textes n'existaient pas. Mais en tout cas, les titres, eux, n'étaient pas les bons, n'étaient pas les mêmes. Donc ça veut dire que le canon n'était pas fixé. Contrairement à ce que la légende dit, le canon n'était pas fixé à l'époque d'Ashoka. En fait, aujourd'hui, la plupart des chercheurs pensent que le canon a été fixé, même le canon Pali, même le canon ancien, n'a été fixé qu'au début de l'ère chrétienne, en fait, au moment où se diffusent les enseignements dits du Mahayana. Et que c'est en réaction à la diffusion des enseignements du Mahayana que les différents courants bouddhiques, les différentes écoles bouddhistes, disent, ben voilà, nous on reconnaît tel texte, soit en intégrant, ou soit en n'intégrant pas les enseignements du Mahayana dans le canon. Et c'est d'ailleurs l'histoire que racontent les Theravadins eux-mêmes dans les chroniques qui ont été rédigées au 4e, 5e siècle de notre ère, où les canons sont fixés, effectivement, eux, ils disent que c'est au moment du deuxième concile de Vaishali que les Mahasanghika intègre des textes du Mahayana. Alors que pour nous, le Mahayana n'apparaît qu'au 1er siècle après Jésus-Christ. Là, ce serait au 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc, hein. Voilà. Donc croire que le canon Pali a été fixé 3 semaines après la disparition du Bouddha et qu'il n'a jamais changé depuis, opinion. Non, la dernière révision dont on est sûr, absolument sûr, elle date du 4e siècle de notre ère. À l'époque où justement les enseignements du Mahayana arrivaient à Ceylan, dans des textes en sanskrit, et les tenants de les traditionnalistes qui logeaient au grand monastère, au Mahavihara, ont décidé que tout ce qui n'avait pas été transmis en Pali n'était pas parole du Bouddha. Et donc ils ont fixé le canon définitivement à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, on peut considérer que le canon est réellement fixé. Mais je vous rappelle que le Bouddha a disparu au 400 avant Jésus-Christ. Hein, donc ça veut dire 800 ans avant. 800 ans avant. Donc pendant 800 ans, il s'en passe des choses. C'est pour ça que Vipassana, c'est peut-être pas ça peut-être jamais été un mot que Bouddha a prononcé. Peut-être.
Mais comme vous disiez, il entre dans la cohérence du bouddhisme.
Disons, je vous dirais même plus, on ne doit l'accepter que dans sa cohérence avec le reste. S'il est présenté d'une façon qui est non cohérente avec le reste, c'est qu'il n'est pas correctement présenté. C'est pas possible. Et le but de l'enseignement du Bouddha, c'est l'expérience directe de la réalité. Donc ce que vous êtes censé faire dans les... Ouh, il nous reste un quart d'heure. Ça va être bref. Bon, cela dit, on connaît les veilles en un instant. Hein. Mais... Donc là, je suppose que ça va être un peu raté.
Il reste vraiment qu'un quart d'heure.
Disons qu'il est 6h moins le quart. Il est 6h moins le quart.
Du calme, après beaucoup
pourquoi j'ai énervé du monde?
L'intégration.
Bon, vous pouvez faire silence et vous recueillir pour intégrer ce qui a été enseigné. Hein. Vous savez, on peut être assis dans le calme et dans le silence pour autre chose que la confrontation directe avec la réalité. D'ailleurs, je vous signale au passage que Vipassana, chez les Tibétains, une des pratiques de Vipassana, c'est la réflexion analytique. Hein, donc on retrouve cette idée d'analyse, qui est bien dans l'étymologie du mot, mais qui n'est pas du tout, qui est vraiment de l'ordre de la réflexion mentale. Hein, donc voilà, ça c'est un emploi de Vipassana attesté dans les pratiques de l'Aktong, du bouddhisme tibétain. Et l'Aktong, c'est la traduction en tibétain de Vipassana, Vipassana sanskrit. Voilà, bon, et eh bien écoutez, 10-15 minutes.